Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Comment la caféine agit-elle sur notre cerveau? Bon, vous le savez sûrement, la caféine, c'est une substance dite psychotrope. Cela signifie tout simplement qu'elle modifie le déroulement de certains processus qui se déroulent dans le cerveau. Qu'on l'apprécie ou qu'on s'en méfie, il est intéressant, je crois, de mieux comprendre comment la caféine agit sur notre façon de nous comporter et de réfléchir. Pour commencer, quelle est la composition chimique de la caféine? Eh bien, la molécule de caféine comporte 8 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène. On l'appelle souvent théine. Alors, la caféine est issue de plantes, elle fait partie des alcaloïdes, qui sont des composés souvent végétaux et toxiques à haute dose. Des composés qui sont utilisés par la plante pour se protéger des insectes. Eh bien oui, consommée à des doses raisonnables, la caféine reste une substance reconnue sans danger par les organismes de protection alimentaire. Quant à ses propriétés excitantes, la caféine les tient de sa structure. Elle comporte des noyaux de xanthine, qui est un pigment jaune qui confère sa couleur à l'urine et qui est également stimulante pour le système nerveux. Alors le cerveau humain est protégé par une barrière hémato-encéphalique qui évite l'intrusion d'hormones, de toxiques ou d'agents pathogènes. Eh bien la caféine, elle, est capable de traverser cette barrière pour atteindre le réseau neuronal. Elle bloque alors là les récepteurs d'adénosine, qui est un neurotransmetteur, c'est-à-dire un messager chimique qui, lorsqu'il atteint ces récepteurs, favorise l'émergence de la fatigue. Il enjoint également le cerveau à limiter son activité neuronale. Donc, vous le comprenez, en bloquant les récepteurs, la caféine empêche le message de parvenir à destination et l'activité neuronale augmente au lieu d'être régulée par l'adénosine inhibitrice. Plus l'activité des neurones est intense, plus le cerveau libère de dopamine, de glutamate et de noradrénaline. Or, ces neurotransmetteurs interviennent quant à eux dans la gestion de l'éveil, de la concentration et de la réactivité. Une personne qui consomme de la caféine est soumise à des pics de glutamate et de noradrénaline. Elle se sent plus énergique et plus vigilante. La dopamine lui procure en outre une sensation de bien-être qui peut l'inciter à consommer plus régulièrement de la caféine. Alors maintenant, quelles sont les conséquences sur les courts et longs termes? Bien sûr, le coup, la caféine améliore certaines formes de performance cognitive et limite le ressenti de la fatigue, on l'a dit. Elle donne un coup de boost à la concentration, ce qui en fait la partenaire idéale pour les trajets en voiture ou les activités exigeant une attention permanente. Cependant, sur le plus long terme, l'organisme développe une certaine tolérance qui implique la hausse des doses de caféine pour obtenir les mêmes effets. Et puis l'arrêt de la caféine, après une consommation élevée, peut aussi induire des symptômes de sevrage désagréables, comme des maux de tête, de la fatigue et des troubles de l'humeur. Enfin, la caféine affecte partiellement le sommeil si elle est consommée en fin de journée, en maintenant les neurones en éveil. Elle peut contribuer à exacerber l'anxiété et d'autres symptômes liés au stress qui empirent avec le manque de sommeil.